Merci beaucoup. Donc je commencerai par remercier les Archives d'Alsace pour leur invitation. À vrai dire, je dois commencer par un aveu. Tant philosophe, je ne suis absolument pas historien au sens professionnel du terme. Ma connaissance de la guerre des paysans est faite de lacunes plus que de connaissances très solides. Et je vais commencer par un propos qui est en fait très général et qui concerne l'intérêt que les historiens eux-mêmes portent au phénomène de la répétition et au rapport d'analogie qu'ils peuvent établir entre différents phénomènes insurrectionnels et de révolution. D'ailleurs, je commencerai par une remarque qui est presque de l'ordre de la philosophie morale plutôt que de la philosophie de l'histoire, à savoir que si nous faisons de l'histoire, c'est parce que nous estimons bien pouvoir en tirer quelques leçons et en retirer quelques profits. Donc, je pense qu'il y a une attente très forte des historiens par rapport au cas de la guerre des paysans. On va voir qu'à travers l'historiographie elle-même, la guerre des paysans a été constituée elle-même en tant que paradigme de l'événement révolutionnaire. Alors je dirais que comme toute la constitution de paradigme, il y a une forme d'idéalisation de l'événement lui-même, ce qui fait que la guerre des paysans des historiens n'est pas exactement la même que l'événement tel qu'il s'est réellement produit. On peut d'ailleurs s'entraîner à mesurer cet écart, mais en tous les cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir donc à l'importance qu'a eu la guerre des paysans en tant que paradigme, alors d'événements insurrectionnels, et puis je le dirai tout à l'heure, puisque ça a été un petit peu annoncé, d'une manière peut-être un peu inattendue. J'aimerais vous parler, j'aurai peut-être pas le temps tout de suite, mais au cours de la discussion, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, d'un livre que j'estime extrêmement important pour notre époque, qui est un livre qui a été publié en Italie à la fin des années 90, en 1999, donc ça date du siècle dernier. Ça a été traduit dans presque toutes les langues au début du XXe siècle, et c'est un livre qui, alors, se ressaisit de la guerre des paysans, non pas comme modèle d'événement insurrectionnel, mais comme émergence dans l'histoire de l'idée communiste, et sur, je dirais, les mésaventures de cette révolution et les causes des mésaventures de cette révolution. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il se trouve, et je trouve ça très intéressant par rapport à la question de la documentation et des archives sur la guerre des paysans, qu'en fait, ce livre s'intéresse beaucoup à la question de la communication autour de la guerre des paysans. Car c'est un fait très important que la guerre des paysans s'est produite à un moment où sont en quelque sorte nés les médias avec l'imprimerie et avec la diffusion de ce qu'on a appelé les Flugblätter, les feuilles volantes, hein, qui permettaient à moindre frais de diffuser des informations, aussi des caricatures, de la littérature pamphlétaire, satirique et très violemment contestataire dans certains cas. Et je veux dire, l'émergence de cette littérature d'information au tournant du XVIe siècle a certainement joué un rôle important dans la guerre des paysans. Et le très grand intérêt de ce livre, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il réfléchit sur les canaux d'information et de désinformation à l'époque contemporaine. Et comme on va le voir, c'est directement en prise avec une actualité dont nous entendons parler tous les jours. Alors pour commencer par quelques remarques très générales, vous excuserez le philosophe que je suis, je dirais qu'il est normal et inévitable qu'un historien se pose la question de savoir si notre situation présente n'est pas la réplique ou la répétition d'un événement passé. Comme les mêmes causes produisent en principe les mêmes effets, Si des rapports de force se reproduisent, alors les mêmes types de mouvements sociaux sont censés eux aussi se produire. Tel est le schéma qui préside à bien des interprétations historiques qui ont ceci de séduisant que, si je puis dire, en regardant le passé, on s'y retrouve. Donc l'histoire, ainsi comprise, devient quelque chose de beaucoup plus facilement déchiffrable, de lisible et de prévisible. Il est toujours confortable pour l'esprit et satisfaisant de retrouver dans un événement ou une situation quelque chose d'analogue que l'on peut croire identique à du déjà connu. Et c'est toujours très satisfaisant pour l'esprit, même si en réalité c'est très trompeur, de se dire en fait ceci n'est pas autre chose que cela. Et bon, d'une certaine manière, je pense que l'historien est obligé de procéder à ce genre d'analogie, mais en même temps au risque d'erreurs de perspective ou de biais cognitifs qui sont parfois importants. Bon, pour en prendre un exemple, puisque nous sommes en Alsace, un philosophe alsacien de souche qui s'appelle Michael Fössel a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Récidive 1938 et qui a repéré toute une série de parallèles ou d'analogies entre la France de la fin des années 30, donc 1938, des accords de Munich, etc., et la France des années 2000. Alors, comme tout bon philosophe, Michael Fössel se méfie de ce qu'il y a de réducteur et ne tombe pas dans l'illusion de la pure et simple répétition, mais joue beaucoup sur cette comparaison qui produit des effets d'intelligibilité pour le présent et pour notre situation actuelle. Si en réalité on ne peut pas observer que les mêmes causes produisent les mêmes effets, comme c'est supposé être le cas dans la nature par exemple, c'est parce que dans le domaine historique, il n'y a pas les mêmes causes, que les causes ne se répètent pas, et parce que chaque situation historique est par définition liée à des circonstances singulières qui ne se reproduisent jamais à l'identique. Alors on peut dire, d'ailleurs c'est intéressant pour étudier l'histoire elle-même, que les fonctions, les charges, les titres peuvent ne pas changer. Je veux dire, on a toujours un roi de France, on a toujours un pape ou un empereur, mais l'empereur Maximilien n'est pas son père Frédéric et Charles Quint, son petit-fils, n'est pas le grand-père Maximilien, même s'il y a, si je puis dire, un air de famille. Et donc, la manière, je dirais, de porter la charge et d'exercer la fonction n'est elle-même jamais la même. Dans le cas de la guerre des paysans, ça fait partie un peu propre à l'approche que j'ai de cette guerre en tant que phénomène historique qui a des racines, je dirais, du côté du théologico-politique. Je crois que l'héritage, point de vue théologico-politique, du règne de Maximilien est extrêmement important et il y a de fait beaucoup de choses qui se sont jouées bien avant l'arrivée de Charles Quint sur le trône et qu'il ne soit sacré empereur. Alors, la causalité contingente des événements historiques fait que des causes littéralement insignifiantes, peut-être invisibles, peuvent produire des effets majeurs. Parfois, c'est l'obstination d'un homme, on dirait une simple tocade, quelque chose d'aussi inexplicable qu'une idée hasardeuse lancée, par exemple, sur un réseau social et qui fait que, hop, le lendemain, vous avez 50 personnes dans la rue, mais on ne sait pas très bien ni comment, ni pourquoi. Alors, si l'histoire se répète, elle ne se répète jamais à l'identique, comme c'est le cas des phénomènes naturels, et dans l'histoire, le détail compte et fait qu'aucun schéma explicatif ne peut vraiment épuiser le sens ou la compréhension d'un événement. Donc là où l'historien cherche des analogies instructives, c'est surtout bien sûr dans les événements insurrectionnels, les crises de régime, les révolutions et leurs suites. Et c'est bien évidemment pour cette raison que les historiens se sont intéressés à la guerre des paysans dès le 19e siècle. Je pense que on vous en parlera d'une manière beaucoup plus précise, instruite et éloquente tout à l'heure. Et on s'y intéressait avec le souci de comprendre quels pouvaient être les points de comparaison possibles avec la Révolution française de 1789, avec celle de mars 1848 en Allemagne, puis après, au XXe siècle, avec la Révolution de 1917, et pourquoi pas aujourd'hui évoquer les Gilets jaunes, par exemple, en tant que phénomène populaire, insurrectionnel, qui peut-être présente quelques analogies avec la guerre des paysans. Alors, je pense, mais je n'en dirai pas plus, parce que, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je pense que, avant le livre d'Engels de 1850 sur la guerre des paysans en Allemagne, Engels a lui-même ramassé un matériau historique qui a été... enfin, c'est pas lui qui a fait le travail primaire de l'historien. Il a utilisé un ouvrage, en l'occurrence les travaux de Zimmermann, et il a utilisé des travaux qui étaient plutôt du côté de ce qu'on a appelé, alors dans l'histoire des études marxiennes, le socialisme romantique. Donc le socialisme romantique qui avait tendance à considérer la guerre des paysans comme contenant, quelque sorte, les prémices et les germes de la Révolution française, qui serait en quelque sorte, cette Révolution française, la réalisation de ce que la première révolution, enfin, ce que la première insurrection, celle des paysans, n'avait fait qu'annoncer ou désirer. Alors, les points communs que présentent ces événements, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la mobilisation de la paysannerie. Donc évidemment, l'historiographie marxiste s'est énormément intéressée à la question de la conscience de classe et des conflits de classe, jusque au risque d'ailleurs d'occulter d'autres dimensions du conflit et d'autres sources d'explications que j'évoquerai rapidement tout à l'heure. Alors, je dirais que parmi les vues à grands traits, si on regarde l'histoire de ces révolutions, de la guerre des paysans, de la Révolution française de 1848 et de 1917, et pourquoi pas ajouter aussi la Révolution culturelle, le point commun de ces révolutions, c'est qu'elles ont toujours une dimension d'échec et quelque chose de tout à fait tragique. D'abord parce qu'il n'existe pas de révolution pacifique. C'est presque une contradiction dans les termes. Et que les révolutions se terminent toujours mal, ça, on pourrait dire que c'est presque une constante, mais une constante qui s'explique de différentes manières. J'en vois au moins quatre. On pourrait dire que soit c'est parce qu'une révolution a fait long feu et que la mèche s'est éteinte faute d'une mobilisation structurée et cohérente, soit parce que l'insurrection est réprimée et écrasée dans le sang, de fait ce qui est arrivé avec la guerre des paysans, soit encore parce que le mouvement finit par se fondre dans l'ordre ancien qu'il devait renverser, et en un sens, je vais y revenir dans un instant, on peut considérer que c'est ce qui est arrivé avec la réforme et ce qui est arrivé à Luther lui-même, soit encore, et enfin, parce que la Révolution établit la terreur à la place de la liberté, du règne de la liberté. Après 1789, il y a 1793. Après 1917, il y a le stalinisme. Il y a l'exemple de la Révolution culturelle, et j'en passe. Alors, pour revenir à la guerre des paysans, on pourrait dire que c'est une révolution avortée à cause d'une répression féroce, bon, qui a été étudiée par elle-même avec cette dimension de l'exemplarité des châtiments, avec une dimension qui a profondément marqué le siècle, d'autant plus que en réalité c'est une forme de guerre civile, hein, et que le genre d'exaction qu'on a pu constater à grande échelle comme ça, enfin, des persécutions, des exécutions de masse, normalement, c'est pas quelque chose qu'on voyait dans le cadre d'une d'une guerre civile. Enfin, là encore, mon ignorance de l'histoire fait que peut-être j'ai oublié tel ou tel précédent important. Alors, pourquoi est-ce que il y a eu cette répression? C'est aussi parce que c'est comme ça qu'on peut le voir, et c'est comme ça qu'on l'a vu dans une certaine historiographie au XIXe siècle. En fait, la guerre des paysans n'est pas une insurrection qui commence à partir de rien, mais qui en fait prolonge et radicalise quelque chose qui a déjà commencé avec Luther, et qu'il y a une forme de radicalisation de la réforme dans le mouvement des paysans, et ce qui a donné lieu d'ailleurs à l'explosion de la réforme elle-même, qui s'est disséminée en une pluralité de sectes dans laquelle les baptistes ont joué un rôle très important, et de mouvements qu'on a appelés de différentes manières, qu'on a appelés parfois les hétérodoxes protestants, l'aile gauche de la réforme, qui est d'ailleurs pas mal étudiée par des groupes de recherche de l'université de Strasbourg. Peu importe, ce qui compte ici, c'est de comprendre le phénomène lui-même dans le prolongement et dans le sillage de l'histoire religieuse de la réforme, ce qui évidemment pose une question évidente et très importante par rapport à la comparaison qu'on peut faire avec d'autres révolutions ou mouvements insurrectionnels ultérieurs. C'est que là, la motivation religieuse est absolument fondamentale et on ne peut pas la dissoudre dans quelque chose d'autre ou la négliger ou la passer sous silence. On peut considérer à cet égard, et je pense que c'est ce qu'a fait une partie de l'historiographie marxienne, marxiste, c'est que on peut considérer la guerre des paysans comme une tentative d'accomplir dans la vie sociale et réelle la réforme que Luther n'a accomplie que dans le champ de la théologie et de la hiérarchie ecclésiastique, qui fait que sa réforme n'est pas une révolution, mais un pâle reflet dans le, si je puis dire, dans l'ordre de la théorie de ce que peut être une révolution dans l'ordre de l'histoire. On peut rappeler que souvent, par ailleurs, on fait des réformes, on le sait, pour ne pas faire de révolution, hein, et qu'en réalité, au titre ou au nom de l'esprit de la réforme, en fait, on peut agir pour, en fait, en réalité, conserver ce que l'on dit vouloir changer. Je pense que nous en avons quelques exemples contemporains qui se passent de commentaires. Donc, à cet égard, il y a une image qui s'est construite au fil de l'histoire d'une forme de mouvement qui est en réalité un mouvement de divergence au sein de la réforme, avec d'un côté Luther qui a fini par devenir une forme de, si je puis dire, de révolution conservatrice, et à l'opposé, diamétralement opposé à la figure de Luther, l'autre pôle, si je puis dire, de cette entreprise, c'est la figure de Münzer, qui est lui qui passe pour le vrai révolutionnaire, le radical, éventuellement dans certains portraits qu'on a pu en faire, l'athée, contrairement à Luther, qui lui n'est pas libéré de la religion ni du cadre sociopolitique médiéval et qui finit en figure complètement réactionnaire par rapport à la figure révolutionnaire de Münzer. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder sur cette espèce d'opposition polaire entre Münzer et Luther. Je crois qu'il faut souligner le fait que cet antagonisme ou cette espèce de bipolarité est en réalité construite par une espèce de logique, hein, de la divergence entre un devenir conservateur de Luther qui a fini par rejoindre l'Empire et les princes, et de l'autre côté, Münzer qui s'est radicalisé dans une forme de résistance et de dissidence qui a fini comme on sait. Ceci dit, je voudrais insister sur le fait que cette figure de Münzer en fanatique communiste athée n'a en fait pas grand sens historiquement. Disons que c'est de toute évidence une construction rétrospective d'une certaine historiographie moderne. On peut dire aussi que, d'un certain point de vue, le communisme chrétien est une fiction et qu'à la limite, parler de communisme, ça n'a pas de sens dans la grammaire théologico-politique de l'époque. Hein, notamment, en disant ça, il peut sembler que je fais du tort à cet ouvrage dont je vais dire un mot maintenant, parce que je vois que le temps passe vite, mais en réalité pas du tout. En fait, il y a des travaux qui ont été faits au XXe siècle sur, disons, les racines chrétiennes de l'idée communiste et qui, par conséquent, s'interrogent sur le fait de savoir si, au fond, le communisme n'est-il pas une utopie chrétienne sécularisée qui s'appuie sur la déclaration des actes des apôtres, omnia habebant communia, ils avaient tout en commun, hein, et de toute évidence, dans la réforme, et chez les anabaptistes par exemple, dans les sectes protestantes du XVIe siècle, il y a la volonté de retourner à une forme de christianisme primitif, de réinstaurer un christianisme primitif qui est une vie communautaire et une vie de partage, pas seulement des biens spirituels, pas seulement d'échanges d'idées, mais d'échanges et de mise en commun des biens réels. Et ceci apparaît au moment de la décomposition du monachisme en Occident. Et bon, c'est l'historien Max Weber, qui est un très grand sociologue des religions, qui a très bien compris ce phénomène de déplacement, que finalement il y a un certain nombre de phénomènes sociaux qui s'expliquaient dans le cadre du monachisme en Occident et qui, au seuil de l'époque moderne, se sont transportés dans la société. Alors, à la fois dans ces sectes religieuses protestantes, radicales, et puis, plus tard, à l'usine. Et ce que dit Weber, par exemple, dans une interprétation qui est extrêmement discutable, mais qui est par ailleurs parfaitement géniale, c'est que, au fond, l'organisation rationnelle du travail à l'usine, qui a rendu possible le développement du capitalisme moderne et de la société industrielle, reproduit et repose sur une forme de morale ascétique qui est propre au protestantisme du début du XVIe siècle. Et je veux dire, tous les historiens ça l'ont étudié. Bon, je crois que je ne vais pas en dire beaucoup plus que ça. On pourra éventuellement en reparler tout à l'heure dans la discussion. Mais les historiens se sont penchés sur, ils ont mis en évidence le fait qu'il y a une forme de morale ascétique et puritaine qui prélude toujours à ces mouvements insurrectionnels. Et c'est pas seulement, je veux dire, c'est pas seulement à cause de motivations économiques, mais il y a dans le développement et dans l'émergence de cette morale ascétique quelque chose qui s'explique par une logique qui est d'ordre proprement religieux et qui ne peut pas se dissoudre dans une explication économique, ni même peut-être simplement par le jeu de ce qu'on appelle les rapports sociaux. Voilà, alors je vois que le temps passe très vite. Je ne ferai peut-être que souligner deux choses. Alors la première, bon, ce dont je ne parlerai pas, en tout cas pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tout à l'heure, je voudrais dire que de mon point de vue, et pour ce que je connais, pour les travaux que j'ai pu faire sur cette période-là de l'histoire, et il me semble que l'historiographie de la guerre des paysans néglige, pour des raisons qui sont elles-mêmes explicables, en tout cas dans l'historiographie marxiste, qui joue un rôle très très important par rapport à la manière dont on a étudié la guerre des paysans, et néglige un phénomène essentiel et un phénomène qui est de l'ordre du théologico-politique. C'est-à-dire que à la fin des années 1490, sous le règne de Maximilien, la notion même de l'Empire, telle que l'a incarnée Maximilien, a complètement changé de sens. C'est-à-dire que la notion Maximilien a chargé la notion de l'Empire d'un sens spirituel et religieux à l'encontre du pouvoir spirituel dont Rome et le pape étaient censés être le dépositaire. C'est-à-dire, je m'explique en un mot, mais je vais aller très vite. Bon, tout le monde sait que, voilà, avant l'époque sécularisée qui est la nôtre, l'équilibre du pouvoir se repose en quelque sorte sur l'équilibre entre le pouvoir spirituel dont le pape et l'Église sont dépositaires, et puis le pouvoir temporel, qui est celui donc des monarques et de l'empereur. Sauf que l'empereur n'est pas un monarque. Et d'ailleurs, c'est Lucien Febvre, d'ailleurs, dans ses travaux sur Luther, qui a très bien mis ça en évidence. En réalité, l'empereur, il est sans pouvoir. Non seulement il est sans pouvoir, en plus il est pauvre, les caisses sont vides. Et en fait, chez Maximilien, depuis les années 1490, il y a une espèce de propension donc à donner à la fonction impériale un rôle spirituel de pacification de l'Empire et donc d'installation d'un règne ultime qui tout simplement prépare les conditions pour la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Et Maximilien était un peu un illuminé jusqu'au point d'ailleurs où il y a eu, alors ce que je décris par analogie avec un phénomène physique qui est une inversion de polarité ou une inversion de... Imaginons qu'il y ait une inversion du champ magnétique de la Terre, ce qui arrivera peut-être un jour. Et là, gare à nos portables et à nos satellites le jour où ça arrivera. Bon, on ne connaît pas la loi de périodicité de l'inversion du champ magnétique de la Terre. Le dernier remonte à 700 000 ans. Et parfois, c'est tous les 200 000 ans. Parfois, c'est 700 000. Bon, on ne sait pas. Ça ne risque pas d'arriver demain. Mais ça peut arriver un jour. On ne sait pas quand. Et là, je pense que dans les rapports de l'Empire et de Rome, de l'Église romaine, il y a eu cette inversion qui fait que les attributs du pouvoir spirituel sont passés à l'empereur et que c'est Rome qui a été constituée en adversaire. En fait, il y a tout un discours d'ailleurs dans l'histoire de l'Empire. On a déjà trouvé ça chez la figure des Hohenstaufen avec Frédéric II. Ça revient exactement avec Maximilien. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est avant Luther, c'est d'abord Frédéric II puis Maximilien, dont les chancelleries ont produit toute une littérature violemment contestataire vis-à-vis de Rome pour dire que le pape était l'antéchrist. Et donc, ça a créé une forme de turbulence, je dirais, politique et religieuse extrêmement importante, qui fait que les paysans dont nous parlions tout à l'heure, et j'y reviens pour terminer là-dessus, en fait, ils étaient fidèles à l'empereur comme à un chef spirituel dans une époque où l'Église elle-même était violemment mise en cause à cause de l'abus des charges ecclésiastiques, à cause de la fiscalité écrasante que les princes-évêques exerçaient sur les populations. Donc tout ça a créé une situation d'instabilité qui fait que, curieusement, et je pense que c'est un trait assez caractéristique de ce mouvement, les paysans ne se sont pas révoltés contre l'empereur, en fait. Et donc, ça fait partie des particularités de cet événement. Et en tous les cas, je termine là-dessus. Quand je disais pour commencer qu'il faut se garder des vues un petit peu simplistes, il faut se garder de juger de ce qu'a été l'Empire et l'idée de l'Empire au début du XVIe siècle à partir de ce que nous connaissons de l'impérialisme avec le néo-impérialisme contemporain, puisque le néo-impérialisme contemporain est un impérialisme de puissance économique, d'oppression économique et politique, antidémocratique, etc., alors que la figure de l'Empire telle qu'elle apparaissait aux paysans au début du XVIe siècle, c'était beaucoup plus un empire de pacification et de spiritualité, c'est-à-dire qui avait la charge du destin spirituel des âmes et des sujets. Donc je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit cette différence fondamentale pour aborder le phénomène historique. Je m'arrête là parce que je pense que j'ai déjà bien débordé.